nom est assez évocateur, la roue. Cela vient d'une vieille institution qui existait déjà les débuts au XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle, et surtout s'est développé durant la papauté avignonnaise, le fait que des auditeurs des sacrés palais se réunissaient pour préparer des réponses pour le pape. Ils étaient très peu nombreux et ils se réunissaient autour d'une table ronde et il y avait un espèce de présentoir qui tournait autour de cette table et qui présentait les différents documents accessibles aux auditeurs. Alors la rote s'est ensuite amplifiée puisque les auditeurs sont devenus bien sûr un collège fixe. Il y a toujours eu par exemple un auditeur français ou un auditeur allemand, un auditeur espagnol. Les puissances de l'époque avaient toujours un auditeur auprès du pape et auprès de ce tribunal. Pour prendre aussi un autre exemple et pour montrer l'importance de ce qu'était l'auditorat à cette époque, c'est que par exemple, au XVIIIe siècle, on a des exemples, lorsque l'ambassadeur de France n'était pas présent à Rome, c'est l'auditeur qui faisait aussi fonction d'ambassadeur. Ensuite, la rote est arrivée jusqu'à dans les années 1870, et après 1870, c'est un peu tombé en... L'activité de la rote s'est éteinte avec la chute des États pontificaux, puis on voit la reprise de la rote, donc sous le pape Pie X, dans les années 1907, et il y a une nouvelle constitution, un nouveau redémarrage de la rote. Et nous sommes héritiers donc de ce qui a été refait sous le pape Pie X.
Alors, la rote est l'un des trois tribunaux ecclésiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa fonction principale et la dissocier des autres?
Alors tout d'abord, il faut dire que dans le monde, il y a pratiquement 1400 tribunaux de première et de seconde instance. Et la rote est essentiellement un tribunal d'appel pour l'Église universelle. Donc nous avons des causes, je dirais, de toutes les parties du monde. C'est extrêmement varié, nous changeons sans arrêt de langue et nos sentences sont toujours en latin puisque nous conservons le latin comme langue du tribunal et même les avocats qui travaillent avec nous présentent aussi leur défense en latin. Les deux autres tribunaux sont des choses tout à fait différentes. Vous avez le tribunal de la pénitencerie apostolique, donc qui concerne le fort interne sacramentel, tout ce qui concerne les confessions et aussi tout ce qui concerne donc les problèmes qui remontent jusqu'au Saint-Siège, et on demande au Saint-Siège de donner une réponse qui se fait de façon très rapide. La signature apostolique est un autre organe extrêmement important dans l'Église. L'une des fonctions de la signature apostolique est, je dirais, la gestion de tous ces tribunaux dans l'Église. Pour donner un exemple très précis, lorsque des évêques, par exemple, veulent ériger un tribunal, il faut qu'ils aient le consentement de la signature apostolique pour ériger ces tribunaux. Et la signature également regarde le fonctionnement des tribunaux dans le monde, a une fonction de vigilance. Si la rote, elle, a un travail uniquement dans le domaine judiciaire, la signature a aussi sa section administrative, c'est-à-dire s'occupe de tous les recours. Par exemple, je ne sais pas, un prêtre a un problème avec son évêque, et l'évêque lui demande de changer, par exemple, de paroisse ou pour différentes raisons. Et le prêtre se sent lésé, le prêtre peut faire recours à l'évêque. L'évêque dit, moi je confirme ce que j'ai déjà dit. À ce moment-là, le prêtre peut éventuellement en appeler à la congrégation du clergé, et si la congrégation du clergé confirme le décret et la décision de l'évêque, eh bien la personne a encore un autre recours avec la signature apostolique et il n'y a pas d'autre recours après. Alors la rote romaine a aussi un travail extrêmement important d'unification de la jurisprudence. Alors pour le moment, bien, nous sommes une vingtaine d'auditeurs. Nous avons un doyen. Il a une fonction aussi d'organisation. Il est comme un chef de dicaster. Il a une fonction d'organisation du tribunal. C'est lui qui gère. Mais les principales décisions qui se font à la rote sont prises toujours en collège. C'est le collège qui vient et ce collège, donc, puisque vous savez que la nomination d'un auditeur est une nomination, comme pour les nonces apostoliques, qui se fait par bref pontifical, c'est-à-dire que nous n'avons pas de supérieur en dessous du pontife romain.
Comment devient-on un auditeur ? Est-ce qu'il y a un pédigré particulier ?
Il n'y a pas d'école de magistrature. Mais les éditeurs, normalement, doivent être docteurs en droit et docteurs en droit canonique, avoir une formation. Pour ma part, pourquoi est-ce que j'ai été nommé, je ne le sais pas trop. Je pense que c'est parce que j'étais vicaire judiciaire pendant un certain temps de la province de Paris, président du tribunal de première instance de Paris. Et de ce fait, eh bien, malgré moi, j'étais un peu connu à Rome et on cherchait quelqu'un. Et j'ai été nommé de cette façon et je crois que c'est un service tout à fait particulier. Le service de la justice, c'est un travail extrêmement passionnant, mais en même temps très austère, parce qu'il nous arrive de rencontrer des gens, il nous arrive d'interroger des gens, bien sûr, mais quand il s'agit de juger, par exemple, un cas d'Amérique du Sud, c'est évident que nous n'irons pas interroger ou demander aux gens de venir jusqu'à nous. Donc nous envoyons toujours des commissions rogatoires. Je dirais que c'est un peu navrant de ne pas rencontrer directement les gens. Notre travail, c'est vraiment un travail de Romain, parce que le travail a beaucoup augmenté ces dernières années. On a pratiquement doublé les causes que nous avions auprès de la Rote. Et chaque fois que nous terminons un dossier, un autre s'ouvre. Et ce qui me console, ce sont les paroles que Jean-Paul II nous adressait lorsque nous étions reçus en audience, seulement les auditeurs avec lui. Souvent, il nous parlait de la difficulté de notre travail, de la précision juridique, des répercussions de notre travail. Et il nous disait, vous savez, votre travail est un travail éminemment sacerdotal. Et je pense que ce que nous faisons est aussi pastoral, c'est un autre niveau, mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir aussi une activité pastorale comme je l'ai à Rome. Même si cette activité est assez réduite, j'ai au moins un contact avec des communautés italiennes, ce qui me permet de regarder les choses de près, et puis le fait aussi de vivre dans un immeuble, je dirais, où il y a des gens mariés avec des enfants, avec une vie extrêmement normale, permet aussi de ne pas décrocher et d'être extrêmement attentif aux problèmes de la société dans laquelle on vit. Ça, c'est absolument essentiel. Un juriste ou un juge qui reste en dehors complètement des réalités qui l'entourent ne peut pas être un bon juriste.